France Info. (20h-21h) France Info, les informés, Jérôme Cadet.
Bonsoir à tous, bienvenue dans les informés de France Info, une heure de débat sur l'actualité de ce week-end. Vous êtes avec nous sur France Info à la radio, à la télé, le canal 27 de la TNT et sur franceinfo.fr, une actualité encore largement dominée ce soir par les suites de la candidature de François Fillon. Ira-t-il jusqu'au bout? En tous les cas, il a mobilisé ses troupes aujourd'hui au Trocadéro. Ce matin, sa femme Pénélope s'est exprimée dans le journal du dimanche et dans quelques minutes, François Fillon s'exprime chez nos confrères de France 2. On reviendra sur cette journée peut-être décisive dans cette présidentielle, mais aussi sur cette campagne impossible et toujours paralysée par cette affaire. Ils n'ont pas renoncé aux informés, on les en remercie. Nos invités ce soir, Maude Guillaumin, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique à Atlantico.fr. Guillaume Goubert, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Directeur du journal La Croix, Gérard Leclerc, bonsoir.
Bonsoir.
Éditorialiste politique à Oui Demain et Jean-François Aquili, bonsoir.
Bonsoir Jérôme.
Éditorialiste politique à France Info. Il a commencé son discours sous le soleil avant de braver la pluie, puis de terminer finalement dans la lumière, peut-être. Y a-t-il vu un signe? François Fillon a mobilisé ses partisans cet après-midi, place du Trocadéro à Paris, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Discours d'une demi-heure, cette fois pas de charge contre la justice ou contre les médias, mais un François Fillon qui reconnaît des erreurs tout en demandant aux hommes politiques de son camp de faire, je cite, leur examen de conscience. François Fillon.
Aux hommes et aux femmes politiques de mon camp, je dirais à présent ceci. Il vous revient maintenant de faire le vôtre d'examen de conscience. Laisserez-vous les passions du moment l'emporter sur les nécessités nationales? Laisserez-vous les intérêts de factions et de carrières et les arrière-pensées de tous ordres l'emporter sur la grandeur et la cohérence d'un projet adopté par plusieurs millions d'électeurs?
Voilà, François Fillon à la tribune cet après-midi avec ses drapeaux bleu, blanc, rouge, avec ses dizaines de milliers de personnes. Difficile de faire un compte précis. Est-ce qu'il a réussi son coup? Est-ce qu'il a réussi sa mobilisation? Sur la forme, d'abord on parlera du fond dans la foulée. Gérard Leclerc.
Oui, moi je trouve oui, incontestablement. Il y avait beaucoup de monde. Je ne sais pas s'il y avait les 50 000, mais en tout cas il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes. En plus, son discours, je crois, est assez d'une certaine façon irréprochable. Il reconnaît ses erreurs. Tout en même temps en limitant la portée. Et puis, quelque part, il met les gens de son parti devant leurs responsabilités en disant « Moi, j'ai fait mon examen de conscience. Moi, j'ai un programme qui celui de redressement qui était approuvé par 4 millions de personnes. » Donc, il justifie sa légitimité. Il dit « Maintenant, c'est à vous de prendre votre décision. » Non sans avoir, au passage, noté qu'il y avait beaucoup, il n'a pas dit de traîtres, mais enfin, de gens qui... il a parlé des factions, il a parlé de ceux qui pensaient à leur carrière, ceux qui
ont commencé à
quitter le navire, etc. Donc il n'a pas été tendre avec ses amis des Républicains.
Alors c'est vrai qu'il s'est vengé aussi, Baudine, parce qu'il n'avait pas du tout apprécié que la veille à Aubervilliers, juste pendant son discours, le communiqué des Républicains tombe juste à ce moment-là. Donc c'était
sur
quand même
la réunion du comité politique
qui était avancé non plus donc à mardi, mais avancé à lundi. Donc c'est vrai que c'était un coup de poignard dans le dos. Hein, faut quand même appeler les choses par leur nom. Donc c'est vrai que là, du coup, là, ils se vengeaient en leur montrant quand même, c'est une démonstration de force quand même. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, malgré un temps, on l'a vu, assez catastrophique.
Changeant, on va dire.
Voilà. Et là, du coup, ils montrent quand même qu'il est toujours là. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'était tout de même le chant du cygne? C'est aussi ce que certains disaient, peut-être aussi sur place parfois, en se disant, nous on y croit, mais est-ce qu'il ira vraiment jusqu'au bout? Parce que certains étaient déçus en pensant qu'ils n'étaient pas assez nombreux.
On avait un double sentiment, peut-être Jean-François Aquili, c'est-à-dire qu'en même temps on avait un candidat qui reconnaissait des erreurs et faisait part de ses difficultés, puis une foule qui scandait Fillon président, il y avait presque parfois comme un décalage.
Oui, Fillon président et Fillon on va gagner. Alors vous savez, c'était quand même un moment assez... C'est étonnant. D'abord, ça rappelle un petit peu ce meeting Trocadéro de Nicolas Sarkozy. C'était la fête du travail, le 1er mai 2012. Mmh. Alors, il y avait un petit parfum aussi de « je vais vous faire un petit coup de la façon au général de Gaulle du 30 68. Bon, c'est, le discours n'était pas à la radio, mais il était en public. Mais c'est vrai que c'est un moment assez étrange parce que il nous a surpris. On a écouté ce récit qui a été fait durant ce discours. On se dit, ça y est, il va lâcher prise. Et poum, il refile la patate chaude aux responsables des Républicains qui se sont tous partis avec armes et bagages. Et quelque part, lui, le prie instamment de partir. Lui demande de quitter la campagne présidentielle, de prendre la décision lui-même et leur dit, vous voulez me foutre dehors, eh bien, faites le travail vous-même. C'est un moment un peu compliqué, c'est un moment difficile. Je ne sais pas comment ça va finir, mais en tous les cas, il est question d'un François Fillon, c'est ce que disent ses amis, ses proches, qui tantôt est au fond du trou. Et d'un coup d'un seul se réveille et comme boosté d'un coup d'un seul, c'était le cas, on le voit sur les images, il était en pleine forme. Il paraît d'ailleurs qu'après sa prestation, il aurait un petit peu replongé, c'est ce que me dit quelqu'un qui lui est très proche, parce qu'il a eu la lecture du sondage Kantar-Sofresse, Le Figaro, qui le donne en chute libre avec un Juppé triomphant, c'est d'aventure, il le remplaçait dans cette campagne présidentielle. Donc on a un petit peu un Juppé up and down, comme disent les Américains. Un Fillon up and down qui a des moments difficiles et des moments où il semble renaître et vouloir reprendre le flambeau. C'est très compliqué à gérer.
Il y a ce qu'il a dit, il y a ce qu'il n'a pas dit, Guillaume Goumer. Pas d'attaque contre la justice,
oui,
je le disais.
Tout à
le
fait.
Système médiatique qu'il a dénoncé toutes ces dernières semaines.
Tout à fait. Là, on peut dire que l'image est bonne. Les images sont réussies. Il y a de la foule, il y a des drapeaux, il y a un discours bien asséné, il y a du monde autour de lui sur la tribune. Et effectivement, alors qu'il y a eu beaucoup de critiques et d'inquiétudes à l'idée que ce soit un rassemblement anti-juge. Ça, il n'y a eu aucun slogan, aucune bannière dans le public, lui-même n'a absolument pas mis en cause la justice, au contraire. Et il n'y a pas eu non plus d'attaque contre les médias, ce qui est assez inhabituel par les temps qui courent.
20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés de France Info, Gérard Leclerc de la revue Oui Demain, Jean-François Killy, France Info, Guillaume Goubert de La Croix et Maud Guillaumin d'Atlantico.fr. On a parlé de François Fillon à la tribune Place du Trocadéro à Paris cet après-midi, déterminé avec ses derniers soutiens derrière lui. Un François Fillon qui tape sur ceux qui quittent le navire, ce sont ses mots, mais un François Fillon qui pour la première fois reconnaît deux fautes.
C'est bien par ma faute que le projet que je porte, auquel je crois, auquel vous croyez, rencontre de si formidables obstacles. J'ai commis la première erreur. Je vous l'ai dit en demandant à mon épouse de travailler pour moi parce qu'elle connaissait le terrain, parce que c'était commode. Je n'aurais pas dû le faire. Et j'ai commis la seconde en hésitant sur la manière d'en parler, de vous en parler aux Français.
Voilà, François Fillon qui tient un discours un peu différent cet après-midi à la tribune. Jusqu'ici, il s'était excusé véritablement du bout des lèvres. Là, on n'est plus sur la même tonalité, Jean-François Killy.
Oui, il dit aussi tout de même à la chute, à la conclusion de son discours, « Vous laisserez-vous tenter par l'écume des choses ?» Il semble toujours minimiser cette affaire, cette histoire, alors qu'une enquête judiciaire est en cours, qu'une mise en examen très probable arrive. C'est un peu tard tout ça, finalement. Il a bien fait de dire ça devant ses troupes, pour montrer que quand même il avait un petit peu réfléchi à la question depuis. C'est tout comme l'interview de Pénélope qui arrive ce matin dans le journal du dimanche. Passionnante, mais tardive. Ça arrive très tard. Nous sommes au bout de cette affaire. Il n'y a plus qu'une poignée de jours pour éventuellement changer de candidat, si d'aventure c'était possible. Donc je pense que, oui, il fait bien de faire un acte de contrition devant ses électeurs. Mais franchement, peut-être aurait-il pu le faire un peu plus tôt. Et surtout, reconnaître des erreurs de communication, c'est assez inaudible, à mon sens.
Il dit, si la justice me reconnaît innocent, le problème, c'est qu'il sera peut-être trop tard et l'élection aura été faussée. Donc est-ce qu'il acte pas quelque chose, Gérard Leclerc, en disant ça ?
Bah, il s'est mis dans cette situation. Moi, ce que je retiens de cette affaire, c'est que c'est vraiment un cas d'école de mauvaise communication. Déjà, d'une part, comment a-t-il pu ne pas anticiper tout cela ? Il est candidat à l'élection présidentielle. Il sait que maintenant, il y a une espèce de, dès que vous devenez candidat, c'est une espèce de scanner qui vous tombe. Enfin, tout est repéré. Or là, c'était pas quelque chose de très mystérieux. C'était pas le canard enchaîné a fait une très bonne enquête, mais enfin, elle n'était pas très compliquée. Je veux dire, à l'Assemblée nationale, tout est répertorié, tout existe. Donc première chose, il a pas anticipé ça. Ça aurait été beaucoup plus simple si, avant même d'être candidat, il y a quelques mois, il, dans une interview à Paris Match, parce qu'il a souvent fait des interviews au Paris Match, il en profitait pour dire, voilà, pour annoncer les choses. Ensuite, il n'a cessé d'être sans arrêt un coup en retard par rapport aux événements. À un moment, c'est lui qui dit « j'ai employé mes enfants avocats, etc. » Or, trois jours après, on voit que les enfants n'étaient pas avocats, étaient simples étudiants, etc. Ensuite, il dit « si je suis mis en examen, j'arrête. Le seul cas où... » Et bien, on apprend qu'il va être mis en examen, et bien évidemment, il n'arrête pas. Et puis, dernière erreur, c'est quand il attaque bien en tête la justice, quand on sait qu'un président de la République, c'est quelqu'un qui est là pour garantir notamment l'indépendance de la justice. Enfin, tout ça est absurde, quoi. Donc, il a fait une série d'erreurs de communication, de prise de position depuis le début de cette affaire.
Qui l'ont conduit dans cette difficulté qui est la sienne.
Bah oui.
Ce soir, François Fillon vient de s'exprimer chez nos confrères de France 2. Il explique qu'il ne retire pas sa candidature, même s'il dit qu'il voit les difficultés, qu'il entend les critiques, mais que personne aujourd'hui ne peut lui retirer la possibilité d'être candidat, et donc qu'il continue. Voilà donc un François Fillon qui va battre la campagne dans les jours qui viennent, Maud Guillaumin.
Alors hier, c'est vrai que j'ai entendu plusieurs proches des députés qui disaient que vraiment autour de lui, certaines personnes avaient essayé de le convaincre, de lui dire qu'il fallait essayer de reculer, mais le but, c'est de ne surtout pas l'humilier, parce qu'en plus, l'humilier lui, ce serait humilier aussi les gens qui ont voté pour lui. Donc, attention, c'est des gens qui pourraient aussi se retourner vers Marine Le Pen. Donc, tout ça est très fragile. Il aurait donc été approché par certaines personnes pour essayer de reculer, et plusieurs avaient cette image en disant « mais c'est impossible de lui parler, on a l'impression que c'est le pilote de la Germanwings ». Vous vous rappelez ce pilote qui a foncé dans la montagne, que c'est une sorte de suicide politique collectif, voilà, il emmène tout le monde avec lui, mais il ira jusqu'au bout malgré tout ce qu'on essaye de lui dire, il n'est plus capable d'entendre. Voilà ce que me disaient certains députés hier.
Et il n'écoute pas, ou en tout cas, il ne s'arrête pas au mouvement que peuvent faire Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé ces dernières heures, Guillaume Goubert.
Ben, c'est pas tout à fait l'impression qu'il a donnée cet après-midi, parce que cet après-midi, il n'a pas réitéré cette phrase qu'il a beaucoup prononcée depuis un mois, « j'irai jusqu'au bout », etc. Donc ça laissait le sentiment qu'il était prêt à ouvrir des discussions, à envisager d'autres hypothèses, peut-être à négocier son programme contre son retrait, que sais-je. Et là, il a l'air de nouveau de repartir dans la première posture. Ça, c'est assez étrange.
Mais vous vous rendez compte la panique chez les Républicains. D'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais quand on regarde la scène cet après-midi sur le Trocadéro, vous aviez François Barois qui est juste derrière, avec d'autres personnalités, Luc Châtel, Éric Ciotti ont pris la parole. Donc vous avez une sorte de groupe. Alors certains disent les Sarkozystes sont toujours là. C'est un peu compliqué.
Mais François Barois qui soutenait Nicolas Sarkozy.
Absolument,
dans la primaire. Absolument.
C'est un peu compliqué à expliquer pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. Mais vous avez une partie des personnalités qui sont toujours là, le suivent de façon un petit peu étrange, un petit peu hors sol. Et vous avez l'immense majorité des autres pointures et personnalités, des autres obédiences des Républicains qui se réunissent demain, qui vont essayer de lui demander de partir. Il règne une sorte de trouble à la tête de cette formation, de ce parti, qui n'est pas encore réglé. Et plus François Fillon dit « je reste », et plus ça devient compliqué pour les uns et pour les autres.
Est-ce qu'il ne joue pas finalement la carte, lui, contre son propre parti?
Ah, mais ça, c'est sûr.
Il a parlé des hiérarques. Aujourd'hui, il a eu des mots extrêmement durs pour tous ceux qui ont décidé de lui retirer leur soutien dans les jours qui ont précédé cette prise de parole, Gérard Leclerc.
Il y a cette tentation qui est un peu dans l'air du temps, de jouer le peuple contre les partis politiques.
C'était clairement ça, cet après-midi.
Oui, mais je pense quand même qu'il va avoir du mal. Si effectivement, demain, le comité politique clairement prend une décision d'adouber...
qui n'est pas le bureau politique. Hein.
Ouais, ouais.
C'est un peu la cuisine interne
c'est
des
vrai.
Républicains. Mais...
D'adouber Alain Juppé, je pense qu'il aura du mal, parce qu'il y a quand même plus... Il a, malheureusement pour lui, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup son parti. Là, il reste maintenant un petit groupe de fervents supporters. Mais enfin, une fois que vous avez... Il y a Chartier...
Des fidèles, voilà.
Mais enfin, ils sont quoi de grands leaders, ils sont une dizaine, quoi. Être vraiment, ça commence
Est-ce
à
que
devenir
ça
difficile.
Compte vraiment Est-ce que ça compte vraiment pour mener une campagne?
Alors c'est vrai qu'à l'inverse, il a l'argent puisque c'est lui qui a été désigné.
C'est ça.
Il a l'argent, mais il n'a plus personne pour le dépenser.
Il y avait de moins en moins de gens pour relayer le message. C'est quand même compliqué.
Et le fait que justement pour le comité, ce soit quand même Gérard Larcher et Bernard Accoyer qui sont normalement des vrais proches de François Fillon.
Et ils étaient là cet après-midi.
Et voilà, donc c'est là où on voit exactement ce que disait Jean-François Aquili, que quand on regarde, on voit que même eux ne savent plus trop comment agir. Encore une fois, je répète cette idée de non-humiliation. Je pense que leur présence est peut-être aussi, et s'explique aussi par cela, essayer d'être le plus proche de lui possible pour essayer de encore tenter de négocier ce qui est négociable.
Même si ça ne marche pas, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous nous avez décrit un François Fillon qui n'écoute personne.
Qui n'écoute personne. Mais ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, c'est qu'il passe peut-être par des hauts et des bas très forts. Et si jamais dans un bar, on arrive à le convaincre, c'est peut-être ce qu'ils se disent encore.
20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés de France Info avec Guillaume Goubert, Lacroix, Maud Guillaumin, Atlantico.fr, Jean-François Aquili de France Info et Gérard Leclerc de la revue. Oui, demain, François Fillon abat ses cartes aujourd'hui. Trois cartes ce soir. Interview donc au journal de 20h de France 2 dans laquelle il explique qu'il maintient sa candidature. Cet après-midi, ce meeting place du Trocadéro à Paris. Et ce matin, sa femme, Pénélope Fillon, qui s'exprime dans le journal du dimanche. Elle explique qu'elle a demandé à François Fillon d'aller jusqu'au bout et elle se défend d'avoir occupé un emploi fictif. On a le sentiment, voilà, maintenant qu'on a la dernière pièce du puzzle finalement, l'interview dans le 20h de France 2 il y a quelques minutes, d'une contre-offensive sur cette journée, sur ce dimanche.
Alors c'est une contre-offensive, mais moi j'avoue que ce que Pénélope Fillon dit dans le JDD m'étonne, parce que quand même elle dit qu'elle ne faisait pas de politique. Donc elle est conseillère parlementaire, mais elle ne fait pas de politique. Je pense qu'il y a beaucoup de conseillers parlementaires, si on leur demande, ils ont quand même l'impression de peut-être pas être les premiers couteaux, mais enfin quand même de faire de la politique à leur échelle.
Alors, elle fait pas de politique, mais elle dit aussi je l'accompagnerai de toute façon où qu'il aille. Donc, ça laisse toujours une sorte de porte semi-entrouverte. On ne sait pas si ça s'arrête, si ça reprend, si ça continue. Ça devient une affaire. Vous savez, j'ai appelé un jupéiste chevronné qui m'a dit, désespéré au bout du fil, on ne fait plus de la politique, mais c'est de la psychologie. Nous sommes dans la peau, minute par minute, de François Fillon. Que se dit-il quand il se couche? Que va-t-il faire quand il se lève? Ils sont tous suspendus à ce qu'il va faire. Ça devient vraiment très, très, très compliqué à gérer, cette histoire.
Ça peut avoir un impact, cette interview. Gérard Leclerc, c'était quoi l'objectif? C'était faire taire les rumeurs, peut-être, qui ont couru?
Oui, alors, c'est une interview assez émouvante, quand même, parce que effectivement, elle raconte l'enfer qu'elle vit, et ça, on veut bien la croire, et c'est vrai que ça doit être terrible. En même temps, elle n'est pas très convaincante, parce qu'elle-même reconnaît que là, pendant des années, donc, elle a travaillé pour son mari, elle dit « oui, mais il n'y a pas de traces, parce que c'était uniquement des messages comme ça que je lui donnais ». Et c'est vrai que ça ne fait pas très sérieux, surtout pour l'un des gros problèmes de cette affaire, c'est que les sommes quand même qui ont été versées à elle et à ses enfants sont des sommes quand même très importantes. Et ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup plus les gens que beaucoup d'affaires politico-financières qui paraissent compliquées, qui paraissent éloignées des gens. Là, les gens voient quelqu'un qui fait rémunérer son épouse 3600, 4000, 7800 euros. Je veux dire, c'est pas rien. Et ses enfants, des gens qui souvent eux-mêmes ont des enfants, ils savent très bien que la difficulté d'obtenir des stages, etc., quand ils sont encore étudiants. Vous voyez, tout ça, je veux dire, c'est des choses qui
donc
parlent
c'est presque
aux gens.
Contre-productif. Oui.
Non, je dirais pas ça parce que je dis, il y a beaucoup de choses dans cette interview qui est vraiment elle est émouvante. On comprend que c'est ce qu'elle vit est terrible, mais c'est pas très convaincant si on met l'affect de côté et qu'on regarde de façon très rationnelle.
Ce qui est l'article, pardonnez-moi, juste un mot. Vous lisez l'interview qui est effectivement assez émouvante. Vous avez raison de le signaler. Et papier suivant, vous avez tout le détail de l'enquête qui est à charge et accablant.
Donc, les PV des auditions des
principaux. Ça n'éteint pas la polémique.
Principaux protagonistes de cette affaire, Guillaume Goubert.
Oui, d'abord dire quand même que cette interview est une bonne nouvelle parce qu'il y avait quand même lieu de se poser des questions devant son absence totale. On pouvait
se demander si
elle ne traversait pas quelque chose de difficile sur le plan psychologique, etc. Ça n'a pas l'air d'être le cas, il faut s'en réjouir. Ensuite, pour abonder dans le sens de Gérard Leclerc, je pense que les sommes en question sont choquantes pour les Français est presque plus choquante que s'il s'agissait de dizaines ou de centaines de millions, parce que c'est des sommes qui sont pas si éloignées que ça de leur propre vie. Et alors qu'on entend parler d'autres affaires politiques, sur des rétrocommissions de vente d'armes, des choses comme ça, où les sommes sont beaucoup plus importantes et de ce fait deviennent en quelque sorte assez abstraites. Et quand tout à l'heure François Fillon a dit que d'autres devaient faire leur examen de conscience, je pense qu'il pensait aussi à cela, sous-entendu j'ai peut-être fait des choses qui n'étaient pas glorieuses, mais je ne suis pas le seul, mais il y en a sans doute qui ont fait des choses bien pires.
On a noté la présence de Pénélope Fillon à la fin du discours, hein, cet après-midi, place du Trocadéro à Paris. Elle est montée sur scène aux côtés de son mari Maud Guillaumin.
Alors moi, ce qui m'étonne justement, c'est les gens qui sont sur place. Quand on leur demande ce qu'ils en pensent, oui, alors certes, il a commis une faute. C'est pour ça que vous avez passé l'extrait où la dame disait qu'elle était contente quand même d'entendre qu'il avait commis une faute. Mais ce qui compte, c'est qu'on est en train de leur voler leur victoire, le projet. Ce n'est pas seulement un homme, c'est un projet. Et c'est ça ce qui compte. Donc en fait, les vrais proches, les pro Fillon, estiment que ce qui compte, c'est la future victoire d'un projet, et qu'importe si en effet, bon bah voilà, c'est beaucoup d'argent et que ça peut les choquer. Ils préfèrent vraiment fermer les yeux.
Remettre le projet au cœur de la campagne, ça va être quand même compliqué, oui, Gérard Leclerc, dans les jours qui viennent.
Il avait jusqu'à maintenant, il a trois arguments. Le premier, c'est de dire j'ai la légitimité des primaires. Et c'est vrai, il y a 3 millions de personnes qui ont voté pour lui. La deuxième chose, c'était de dire j'ai un vrai projet de redressement de la France, etc. Et c'est indiscutable, il a vraiment un vrai... Voilà, tout le monde le connaît, etc. C'est le troisième argument, à mon avis, qui aujourd'hui marche moins bien, c'est de dire il n'y a pas d'alternative. Et là, je crains, ça a été vrai très longtemps, à cause tout simplement des rivalités qu'il pouvait y avoir entre Sarkozy et Juppé, plus les autres qui attendaient, etc. Là, il semblerait, d'après ce qu'on entend, semble-t-il, l'hypothèse Juppé, quand même, commence à prendre une vraie consistance et que, semble-t-il, Sarkozy n'y mettrait plus son veto. Alors, si c'est le cas, là, cet argument de « il n'y a pas d'alternative » tombe.
Mais avec quel projet ?
Très, très rapidement,
avec
voilà.
Quel projet ?
Quel projet ? Quelle alternative ? François Fillon nous dit ce soir qu'il veut proposer une nouvelle équipe de campagne. On verra qui peut entourer François Fillon dans les jours qui viennent, qui voudra bien l'entourer. Que feront alors ses anciens rivaux pour la course à l'investiture, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé? On continue d'en débattre dans les informés de France Info dans 3 minutes sur France Info. Restez avec nous, à tout de suite.
20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés de France Info, vous êtes avec nous sur France Info, à la radio, à la télé, le canal 27 de la TNT. Et sur franceinfo.fr avec nous ce soir, Gérard Leclerc de la revue Oui Demain, Guillaume Goubert, Lacroix, Maud Guillaumin, journaliste politique à Atlantico.fr, et Jean-François Aquili de France Info. François Fillon est toujours ce soir candidat à l'élection présidentielle. Il maintient sa candidature après son meeting cet après-midi, prise de parole, place du Trocadéro à Paris, et donc cette déclaration ce soir aux 20h de France 2, François Fillon qui reste.
Personne ne peut aujourd'hui m'empêcher d'être candidat. Encore une fois, j'écoute ce qu'on me dit, mais je veux dire que démocratiquement, j'ai été désigné, j'ai 1500 parrainages, j'ai ma campagne malgré les défections qui se déroulent, donc personne n'a le pouvoir de m'obliger à retirer ma candidature. Ça ne veut pas dire que je ne discute pas, que je n'écoute pas, que je ne suis pas prêt à dialoguer.
Cela veut dire
mais
quoi,
je veux dire François simplement Fillon. Que c'est ma décision, et cette décision, elle a été aujourd'hui confortée par ce rassemblement populaire dont tout le monde pensait qu'il serait un échec et qui a été une réussite.
Voilà, François Fillon qui maintient sa candidature mais qui annonce également des initiatives pour rassembler son camp et proposer une nouvelle équipe de campagne. Voilà ce que dit François Fillon dans le même temps. Après cette déclaration, Alain Juppé fait savoir sur le réseau social Twitter qu'il fera une déclaration demain matin à 10h30 à Bordeaux. Votre réaction à ce que vous venez d'entendre, François Fillon, ce soir, dans quelle mesure peut-il continuer sa campagne? En tout cas, il en a la volonté, Jean-François.
Oui, parce qu'en plus, il possède les clés du camion, c'est-à-dire que son parti, Force Républicaine, est suffisamment doté aujourd'hui pour qu'il puisse techniquement, financièrement poursuivre sa campagne. Franchement, on se demande où cela va s'arrêter. Vous évoquiez cette conférence de presse d'Alain Juppé demain. Il y aura la réunion ensuite du comité du bureau politique.
Le comité politique
des Républicains. Chaque jour, un événement. Chaque jour, un dérebondissement. Ça nous rappelle un petit peu, d'ailleurs, la bataille, la guerre Copé-Fillon, il y a de cela, quoi, 2-3 ans. Et je comprends maintenant les candidats type Benoît Hamon qui disent eh bien, avec ça, on n'arrive plus à faire campagne.
On va en parler.
Oui, on va en parler après. Mais vous savez, il y aura bien un moment où il va falloir que ces gens-là se parlent. Il y aura bien un moment où il va falloir qu'ils s'assoient tous autour d'une table. Et apparemment, ça n'est pas encore le cas.
Alors, François Fillon veut continuer. Mais comment Thierry Solaire, qui était son porte-parole, a annoncé la semaine dernière qu'il arrêtait. Il a un nouveau directeur de campagne qui saute dans le train en marche. Maud Guillaumin, tout ça paraît bien difficile.
Je rebondis juste sur ce qu'il a dit. Ma campagne qui se poursuit. La veille à Aubervilliers, il y avait quand même très très peu de monde. Hein. C'était très très clairsemé. Hein. Donc c'était quand même déjà un premier signe. S'il y a jamais, il y avait eu déjà plein de monde, ça aurait aussi prouvé quelque chose. Là, on a quand même fait venir exprès des gens. C'est-à-dire qu'à Aubervilliers, les gens ne sont pas venus d'eux-mêmes. Je trouve que c'est quand même un signe important. Alors après, il y a M. Chriqui qui arrive. Il y a des fidèles parmi les fidèles. Hein. Jérôme Chartier, je pense qu'il partira jamais. Il y a aussi cette directrice de communication, enfin la communication derrière, hein, celle qu'on voit jamais, Anne Méo, qui a un rôle très très important. On dit que c'est une guerrière, donc qui le pousse au combat
Oui, elle avait cru en lui au départ de la campagne.
Les primaires.
Qui était présente lors de l'interview de Pénélope Fillon au Journal du Dimanche, publié.
Donc ça,
matin.
C'est très important. Je suis sûre que c'est elle qui a vraiment lancé en se disant maintenant, il faut plus montrer aux gens qu'en effet, Fillon fait son mea culpa. Elle a dû le pousser à faire davantage son mea culpa, je pense. Mais je ne comprends pas, je reviens à ce que disait Gérard Leclerc, pourquoi elle ne l'a pas poussé avant. Par exemple, quand même, vous aviez dit en effet qu'il y avait plein de choses qui ressortaient. Il y avait eu le tweet de Rachida Dati quand même, où elle parlait de collaborateurs en disant on n'est pas si blanc qu'il croit, enfin des choses comme ça. Et puis il y avait quand même eu Yannick Jadot déjà qui avait parlé en novembre 2016 de la société de François Fillon, de ZEF, en disant qu'il fallait connaître qui étaient les clients de François Fillon. C'est pareil, on ne les connaît que depuis très peu de temps. Donc là encore, il a vraiment essayé de masquer les choses.
Alors, il parle ce soir d'initiative de rassemblement, très bien, mais qui peut-il rassembler? Et là, j'en viens à la présence un peu surprenante pour certains de François Baroin aujourd'hui à la tribune. Est-ce que c'est un rassemblement qui est en train de s'esquisser, Guillaume Goubert? Et comment? Parce que là, il a perdu beaucoup de soutien et il nous dit qu'il veut avoir une nouvelle équipe.
Tout est très difficile à décrypter. Ce qu'on peut dire un jour est démenti le lendemain. J'en fais régulièrement l'expérience. Donc, c'est extrêmement difficile de dire. Ce qu'on peut dire, c'est, au vu des images, c'est que François Baroin n'a pas lâché François Fillon pour l'instant et qu'on a beaucoup dit ces derniers temps qu'il était... Il avait en quelque sorte négocié le poste de Premier ministre contre son soutien. Bah, apparemment, le contrat tient toujours. Est-ce qu'en même temps, les échos qu'on a, c'est que quand même Nicolas Sarkozy, François Baroin est un sarkozyste, que Nicolas Sarkozy se pose beaucoup de questions et craint un désastre global. Parce que bon, dire « je préfère la défaite de Fillon à la victoire de Juppé », c'est quand même un raisonnement, on sait que ça existe historiquement, hein. Il y a eu le cas de Chirac par rapport à Giscard en 80, des choses comme ça, mais ça a quand même des limites dès lors où on se retrouverait dans quelques mois avec, par exemple, Macron président et Marine Le Pen chef de l'opposition. Ce serait quand même assez dramatique pour les Républicains.
Sur ce rassemblement qu'annonce François Fillon ce soir, pour l'instant, Gérard Leclerc, c'est un vœu pieux.
Il parle de rassemblement, pour l'instant c'est l'inverse. En l'espace de quelques jours, il a perdu son directeur de campagne, son trésorier. Enfin, et aujourd'hui encore, enfin, tous les jours, il y en a qui partent, parce qu'aujourd'hui il y a quand même d'un coup Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Estrosi. Donc ça fait beaucoup. Moi, ce qui m'interpelle dans ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'il dit un peu une chose et son contraire. D'un côté, il dit clairement « Personne ne peut m'empêcher d'être candidat, c'est ma décision, elle a été confortée aujourd'hui par le Monde qui était au Trocadéro. J'ai été désigné, j'ai les parrains. » Et en même temps, il dit « Ça ne veut pas dire que je n'écoute pas. » Vous voyez ce que c'est assez étrange.
On retrouve un peu l'ambivalence du discours de cet après-midi.
20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés de France Info, Maud Guillaumin, Atlantico.fr, Guillaume Goubert, Lacroix, Gérard Leclerc de la revue Oui Demain et Jean-François Akili de France Info. François Fillon persiste et signe, il maintient sa candidature. Comment vont réagir ses anciens rivaux à la primaire de la droite et du centre, et notamment Alain Juppé. Alain Juppé qui annonce ce soir qu'il fera une déclaration demain à 10h30 depuis Bordeaux. Alain Juppé soutenu pendant la primaire notamment par Édouard Philippe, le maire du Havre, qui était ce midi l'invité de France Inter et de France Info dans Questions politiques. Question posée à Édouard Philippe, comment sortir de ce scénario, François Fillon?
La meilleure des choses que l'on puisse espérer, c'est que on décide de faire une forme de cohésion autour de la candidature la plus crédible. Si c'est celle d'Alain Juppé, j'en serais heureux, parce que je le soutiens et parce que je l'estime et parce que je pense qu'il ferait un excellent président de la République. Si c'est quelqu'un d'autre, pourquoi pas ? Mais en tout cas, il faut que cette base politique de la droite et du centre, qui a été réunie au terme de la primaire, puisse retrouver sa cohésion pour pouvoir faire valoir ses idées.
Édouard Philippe, le maire Les Républicains du Havre, ce midi, on le voit, c'est pas très clair. Ça peut être Alain Juppé, mais ça peut être un autre.
On avait parlé d'un ticket.
Mais non, non.
On avait parlé d'un ticket, enfin, on a parlé, Yves Jégot a parlé d'un ticket très étonnant, Borloo-Juppé, avec Juppé président, Borloo premier ministre. Ça, c'est la première fois qu'on arrive directement à une élection avec un ticket gagnant, parce que donc ce serait un double pour pas mettre directement une autre star à la place de Fillon. Encore une fois, pour pas l'humilier. Voilà, c'est toujours cette idée, c'est ce que disait Yves Jégot.
C'est très, très difficile cette histoire de succession. J'ajoute que sur la présence de François Baroin aujourd'hui sur la scène, au Trocadéro, c'est un petit peu comme si Nicolas Sarkozy avait demandé à certains de ses fidèles, et le premier d'entre eux, c'est François Baroin, qui est un possible candidat de substitution, de rester au plus près de François Fillon, de l'accompagner peut-être jusqu'à la sortie, sans doute pour ne pas l'humilier, mais mieux encore pour garder, au fond, comme c'est un peu comme des conseillers militaires dans une bataille, pour les garder au plus près du général en chef. Et vous savez, Édouard Philippe, dans son propos, est extrêmement prudent, parce que lui, il s'inquiète par-delà la désignation de tel ou tel successeur. Il pense évidemment à Alain Juppé, il ne peut pas le dire aussi clairement. Lui s'inquiète de ce qui se produira ensuite avec les électorats en réalité. Parce que le problème d'Alain Juppé, c'est que c'est sans doute un candidat qui séduit énormément. Le fameux sondage, il vaut ce qu'il vaut, de la Saufresse, Kantar Saufresse pour le Figaro, le donne déjà plutôt bien placé dans l'hypothèse d'une succession. Mais quid des électeurs de François Fillon, que nous avons vu aujourd'hui très remonter sur la place du Trocadéro, vont-ils partir eux-mêmes aller voter chez Marine Le Pen pour le premier et le deuxième tour ?
Alors la question du plan B, Gérard Leclerc, Alain Juppé doit s'exprimer demain. Pour l'instant, il n'y a pas de solution alternative. On a le sentiment que personne ne veut vraiment aller contre la volonté de François Fillon de rester candidat.
C'était le cas, en tout cas, jusqu'à il y a très très peu de temps. Bon, là maintenant, il semblerait qu'il y ait pas mal de tractations, etc. Et que, bon, incontestablement, les juppéistes ont fait leur boulot. Et on dit que ça pourrait être accepté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Alain Juppé n'ira pas dans n'importe quelle condition. Et je pense que ce qu'il veut, c'est qu'il y ait un véritable soutien de l'ensemble du parti, des Républicains, et qu'il puisse, parce que la campagne, ça s'annonce, il a quand même été échaudé par ce qui s'est passé à la primaire, et ce ne sera pas facile de faire campagne. Il n'a plus que moins de 3 semaines. Enfin, oui, c'est ça.
Alors, le calendrier...
C'est 7 semaines.
7 semaines, et en tout cas, avant...
Il reste 7 semaines.
Et c'est le 16 mars,
date limite du dépôt des candidatures. Le 17 mars, accessoirement, François Fillon répond au juge. Et le 23 avril, déjà, et oui, il reste plus que
donc,
7 semaines,
ça va être,
premier tour.
Ça va être très court, et en tout cas, donc, s'il y va, et c'est pas pour, bien évidemment, pour se prendre un deuxième échec, et donc il demandera, j'imagine, beaucoup de garanties, et notamment dans les soutiens.
Et puis,
c'est là où il reste une inconnue.
Et puis, il y a la question du projet, Guillaume Goubert. Il l'a rappelé cet après-midi, François Fillon, c'est votre projet. Le projet, il a été validé. Plus de 2 millions de votants pour François Fillon. Est-ce que Alain Juppé peut porter le programme de François Fillon ?
Je pense pas que ce soit totalement impossible. Il y a des questions d'accentuation qui étaient pas les mêmes. Enfin, je veux dire, il y avait quand même un tronc commun relativement large. Donc, ça me paraît pas le point le plus difficile à mes yeux. Moi, je pense que pour Alain Juppé, ce qui est quand même très, très, très compliqué, enfin, Gérard le disait à l'instant, c'est que quand même, bon, il a plus de 70 ans, il s'est pris beaucoup de claques dans sa vie politique, il a peut-être pas envie d'en prendre encore une, quoi. Et que partir dans ces conditions-là, ça demande une abnégation vraiment très grande.
Oui, parce que c'est loin d'être gagné. Il y a Marine Le Pen, Emmanuel Macron qui ont pris un temps d'avance, et puis les autres qui font campagne.
Et puis il y a une question de style, d'incarnation. Le style Fillon était beaucoup plus musclé que celui d'Alain Juppé. On l'a vu dans les propos de campagne lors de la primaire à droite. L'un était quand même assez, on va dire, centriste, Alain Juppé, avec des propos plutôt apaisants. Hein. Et François Fillon, lui, avait un style plus radical, plus conforme à ce qu'attend une grande partie de l'électorat de droite des Républicains. Et ça, il va falloir qu'il modifie un petit peu son ADN de campagne, Alain Juppé, si d'aventure...
Beaucoup plus libéral aussi.
Oui, si d'aventure, il succède à François Fillon, ce qui n'est pas encore fait.
Alors, on a parlé parler d'Alain Juppé. Quel rôle pour Nicolas Sarkozy dans les jours qui viennent? Christian Estrosi, l'un de ses soutiens, va demander demain à rencontrer François Fillon pour lui proposer une sortie respectueuse, accompagnée de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et de Xavier Bertrand, président de région des Hauts-de-France. Est-ce que Nicolas Sarkozy, quel est son rôle finalement?
Quand on a su que Juppé et Sarkozy s'étaient rencontrés, que les deux camps ont bien confirmé, donc du coup on fait bien passer l'info. C'est déjà un premier plan. Il avance ses pions avec ses très proches, hein, notamment Estrosi. Oui, c'est vrai que petit à petit il pousse François Fillon vers la sortie. Il paraît qu'il l'a vraiment déjà dès hier exhorté à tout arrêter en lui disant que ce n'était plus possible.
Finalement, Yalta, c'était moins compliqué.
Hein, Jean-François Guilly.
Yalta, c'était moins compliqué. Je trouve ça absolument délirant. Nous sommes là à observer de façon millimétrique ce que peuvent éventuellement penser les uns et les autres. Et il est vrai que le sujet est fondamental, très important. Il en va de l'avenir de ce pays. C'est l'élection présidentielle, c'est l'élection phare. Et nous ne savons toujours pas, à l'heure qu'il est, qui va succéder à qui et qui va faire campagne pour le candidat qui était censé être le favori de cette élection. C'est assez inédit et invraisemblable.
Gérard Leclerc.
Oui, Sarkozy, il ne vit que pour la politique. Il adore la politique. Et donc...
Il travaille dans le privé.
Ça n'empêche que, croyez-moi, il continue à suivre de très très près et que quelque part, il aimerait bien avoir le rôle un peu de je vais pas dire du marionnettiste parce que c'est désagréable.
Est-ce qu'il peut dire oui à une candidature à Alain Juppé? C'est ça.
Alors,
aussi.
Je pense que dans un premier temps, il ne souhaitait pas, il ne voulait pas la candidature d'Alain Juppé. Ça me paraît assez clair. Simplement, il se rend compte, comme c'est un politique qui fait des vraies analyses politiques, qui se rend compte jour après jour que Fillon, c'est plus possible.
Mais au départ, il a quand même soutenu Fillon, c'est vrai.
Tout à fait. Bah, parce qu'il ne voulait pas Juppé. Il ne voulait pas Juppé. Simplement, il y a un moment où la réalité s'impose. Et que là, je crois qu'il a compris qu'il ne pourrait plus, en tout cas lui, bien évidemment, ne pouvait pas y aller, et que Barouin, c'était pas simple non plus, parce que face à Barouin, il y a Xavier Bertrand, il y a Wauquiez, etc., qui ne veulent pas le laisser partir. Et donc, quelque part, les choses font que le seul qui peut être en situation, c'est Juppé. Et dans ces cas-là, Sarkozy va essayer de faire en sorte de, en tout cas, de contrôler, si je peux dire, cette candidature.
Et le parti, parce qu'il veut mettre la main sur le parti.
C'est l'un des enjeux. Et pendant ce temps-là, la campagne se poursuit ou tente de se poursuivre. On va en débattre dans deux minutes.
20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés de France Info, Maud Guillaumin, Atlantico.fr, Guillaume Goubert, De La Croix, Gérard Leclerc de la revue Oui Demain et Jean-François Killy de France Info. La présidentielle suspendue à l'avenir de la candidature de François Fillon qui se maintient ce soir. Il l'a donc annoncé chez nos confrères de France 2. Pendant ce temps-là, les autres candidats estiment qu'ils ont le plus grand mal à faire entendre leurs propositions. C'était le cas de Marine Le Pen ce midi chez nos confrères de BFM TV.
Je suis inquiète parce que, comme vous l'avez rappelé, l'élection a lieu dans 49 jours et ça fait 40 jours qu'on ne peut pas parler de politique, que le débat est quasiment interdit et que les Français qui réclament de savoir ce que les uns et les autres proposent en fonction de leurs intérêts, de leurs inquiétudes, de leurs préoccupations, eh bien n'entendent plus rien. C'est-à-dire que déjà la moitié de la campagne, si je puis me permettre, est inutile.
Marine Le Pen, donc ce midi sur BFM, vous êtes d'accord, la campagne elle va débuter le 15 mars, une fois qu'on aura le casting, elle va durer un mois et demi, Gérard Leclerc.
Je suis pas d'accord, elle est mal placée parce qu'il y a eu des primaires à droite et à gauche où là, vraiment, on a beaucoup parlé des programmes, très sincèrement. Emmanuel Macron a présenté un programme, non, il y a eu... alors c'est vrai qu'aujourd'hui, indiscutable, la campagne est un peu parasitée.
On aurait bien aimé parler d'autre chose, pour tout vous dire.
Fillon. Mais ceux qui ont voulu parler... on a parlé des programmes aussi, il ne faut pas exagérer non plus.
Je crois qu'elle a raison. Raison, Marine Le Pen a dit la même chose que Benoît Hamon et que les autres d'ailleurs.
Hamon, il ne fait pas campagne, alors il est mal placé lui aussi.
Pourquoi il ne fait pas campagne?
Parce qu'il a passé trois semaines à négocier avec les Verts. Il a le droit de le faire.
C'était important, mais enfin, c'est vrai que.
Gérard Leclerc a entièrement raison. Non, ce qui va se produire, c'est qu'il y aura un premier débat télévisé, c'est le 20 mars sur TF1. On verra les impétrants. On aura le nom depuis longtemps du candidat des Républicains. Ils vont s'affronter.
Depuis longtemps. Depuis quelques jours.
Une éternité.
Si on l'a.
Une éternité. et ils vont s'affronter, ces candidats-là, pendant un mois. Il y aura, allez, un mois de campagne avec des débats télévisés, radiophoniques, très forts. Ça va durer un mois, c'est comme ça.
Un mois et demi, oui, Guillaume Goubert.
C'est pas la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'une campagne est très courte. Je veux dire, c'était déjà arrivé en 65, c'était arrivé également en 1988. Alors vous me direz, à l'époque, c'était dû à la décision tardive de deux figure historique, c'est-à-dire le général de Gaulle et François Mitterrand.
Aujourd'hui, bah là,
on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure, mais ça prouve qu'une campagne peut se développer sur relativement peu de temps. Je veux dire, voilà, il restera, comme dit Jean-François, il restera un mois. Bon, je veux dire, ça permet quand même d'engager le débat sur le fond. Donc, je veux dire, c'est pas dramatique, c'est un peu ridicule, mais c'est pas dramatique.
Je suis quand même d'accord avec Marine Le Pen, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu perdu, et surtout quand on parle avec les gens, beaucoup de gens ne savent pas pour qui ils vont voter. Et pourquoi ? Parce que justement, petit à petit, ils n'arrivent pas à se focaliser sur quelqu'un. Et c'est vrai que, on l'a déjà dit, une campagne présidentielle, c'est d'abord une personne. Et comme là, du coup, bah, voilà, et c'est beaucoup plus difficile de commencer à vraiment s'arrêter sur quelqu'un, à l'écouter, quand en fait, tout change si souvent. Et la preuve, c'est qu'il y a plein de gens qui ne savent pas du tout pour qui ils vont voter, puisqu'on parle du côté seulement de Marine Le Pen, de gens très sûrs de leur vote.
Donc ça accroît l'indécision et peut-être à terme l'abstention, Jean-François.
Il y a une sensation de non-débat. J'ai quand même envie de dire aux uns et aux autres qui nous écoutent et qui nous regardent... Ouvrez les journaux, cliquez sur le net, allez voir les programmes.
Allez sur franceinfo.fr.
Sur franceinfo.fr, effectivement, il y a des journées spéciales, autant se faire plaisir au passage.
Dossier de candidature.
Voilà. Donc oui, non, mais cette campagne va être effectivement très courte. Elle va être sans doute assez brutale dans la dernière ligne droite. Moi, ça ne m'inquiète pas outre mesure, finalement. Je pense que, surtout, nous épuisons les publics avec cette affaire absolument ridicule de bataille chez les Républicains. Il faut comprendre aussi que le problème des primaires, maintenant, c'est que ça fait démarrer une campagne quasiment, pas un an avant, mais une saison auparavant, et que c'est aussi très long, finalement, dans la durée. Nous avons démarré fin août, début septembre, pour finir début mai. Ça fait quand même beaucoup. Ça donne une campagne avec une amplitude très large. Il faut le rappeler.
Donc vous validez un petit peu ce que disait Gérard Leclerc à l'instant, Guillaume Goubert.
Oui, effectivement, c'est une. Mais je pense quand même que les Républicains là ont une responsabilité assez lourde, parce que je veux dire, c'est aussi à eux quand même de mettre fin à ce pataquès.
Ils phagocytent la campagne.
Ben oui, oui. Et puis, je veux dire, à un moment, il était de bon ton de dire que c'était les médias qui remettaient toujours des pièces dans la machine. C'est en partie vrai, bien sûr. Mais en même temps, la semaine dernière, c'est François Fillon lui-même qui a créé une sorte d'événement autour de sa mise en examen, alors que ça aurait pu donner lieu à un simple communiqué. Il n'y avait pas forcément besoin de faire toute cette matinée assez incroyable, cette déclaration avec des mots très très forts, assassinat politique, etc. Et je pense que, véritablement, le parti, les Républicains, aujourd'hui, a une responsabilité importante dans le retour à une campagne normale.
Mais parfois, ils théâtralisent un peu. Hein, sa non-venue au salon de l'agriculture, où il a surpris ses propres équipes, puisqu'il ne les avait pas prévenus, ça a théâtralisé les choses. Donc, c'est vrai que la presse, du coup, est là, filme, et donc, du coup, se pose d'autant plus de questions. Mais enfin, si jamais... Déjà, il avait prévenu ses équipes et que dès le début, on l'attendait plus sur les stands, ça aurait déjà calmé le jeu.
Je reviens sur ce que vous disiez, Guillaume Goubert, vous parliez de normal. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver une campagne normale ou bien quoi qu'il arrive, on va traîner cette affaire jusqu'au bout.
Non, parce que de toute façon, il y aura, à partir du moment où on connaîtra vraiment les candidats, c'est-à-dire à partir du 17 mars ou 18 mars, quelque chose comme ça. Là, je pense que la campagne, il va y avoir première émission, le premier débat à la télévision, où là, on va bien voir, ils seront tous confrontés, on aura les candidats, etc. Donc je pense que ça va démarrer vraiment à ce moment-là. Bon, il restera un bon mois, en un mois, on voit quand même ce qui se passe, quoi.
Eh bien, on espère que cette campagne va redémarrer le plus rapidement possible. On aura l'occasion d'en débattre, évidemment, dans les informés, sans doute avec vous, Maud Guillaumin. Merci à vous, journaliste politique à Atlantico.fr. Je rappelle, Jackie, les 4 jours qui ont changé sa vie dans un tout autre domaine. Voilà, c'est paru aux éditions de l'Archipel. Guillaume Goubert, qu'on lit demain dans La Croix. Gérard Leclerc, qu'on lit dans Oui Demain. Et Jean-François Akili, qu'on regarde et qu'on écoute sur France Info.
Et la nuit sera courte.
Et la nuit sera courte aussi, évidemment. Et vous retrouverez demain soir à cette même place, à la même heure, Jean-Mathieu Pernin. Bonne soirée à vous.